Deezer Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Mehdi Maizi, la playlist de ma vie avec Justine Froyoli ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création.
Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT, le podcast préféré de ma maman. Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'ActuPop. Pour m'accompagner, comme chaque semaine, un homme dont le taux de sang dans l'alcool n'excède jamais 0,5 g par litre. C'est la promesse qu'il s'est faite par un beau jour de février 1974. Voici Thomas Croisière.
Hey, c'est moi. Bonjour David.
Bonjour. Alors Thomas, de quoi on va parler aujourd'hui ?
Miel Pops, Frosties, Chocapic, All Brands. On nous vend à longueur de pub les vertus d'un petit déjeuner sain et équilibré à base de pétales de maïs soufflé ou de flocons de blé grillé. Et pourtant, certains peuvent être dangereux pour votre équilibre alimentaire. Nous allons faire un point sur ces produits qui vous mentent, sur ces céréales killer.
Alors Thomas, je constate que vous avez fait anglais deuxième langue, hein, parce que nous n'allons pas parler de céréales killer, mais de céréales killer.
Ah, Serial Murder.
Ouais, voilà. Et pour les auditeurs qui parlent moins bien allemand que Thomas Croisière, Serial Murder, ça veut dire meurtrier en série. Hein, voilà. Alors, si vous vous demandez, attends, mais c'est quoi un serial killer? Je veux dire, de façon précise, eh bien, j'ai plongé dans mes propres souvenirs d'enfant pour essayer de répondre à la question.
Quand j'étais petit, j'étais un vrai petit enculé. Je criais tout le temps, j'étais égoïste et surtout j'avais un rêve complètement inavouable. Je voulais tuer de petits animaux mignons, des poussins, des petits chats et aussi ce connard de Saturnin le canard avec sa tête mignonne là. Mais bon, je n'osais pas. Alors, je m'exerçais sur des insectes. Je versais de la cire chaude sur des colonies de fourmis qui agonisaient en bougeant leurs petites pattes. Je gazais des grillons dans des boîtes d'allumettes et j'arrachais les ailes des mouches pour les regarder galérer.
Ah bah ouais, hein, tout de suite on arrête de faire bzz bzz bzz. Sale mouche va.
Et puis un jour, au bord d'un étang, j'ai tiré sur un poisson rouge avec un arc et une flèche. La flèche est remontée à la surface avec le poisson transpercé qui frétillait au milieu et là, j'ai été pris d'une très très grande tristesse. J'ai pleuré ma race dans les bras de ma mère qui m'a dit: ne t'en fais pas mon fils, quand j'avais ton âge, moi j'ai tué une petite poule en la jetant dans les toilettes et après j'ai pleuré comme toi. Ça, c'est ce qui différencie et qui différencie ma mère d'un serial killer. Et oui, la science l'a montré, beaucoup de serial killers commencent comme moi par tuer des animaux. Mais eux, ils arrêtent jamais de trouver ça cool, alors un jour ils se disent:
maintenant j'aimerais bien tuer des gens, en fait, parce que ça a l'air mieux.
La plupart du temps, les serial killers sont donc des personnes qui ont un dérèglement de la tête. Un dérèglement qui leur fait apprécier le fait de tuer, comme vous et moi on apprécie le fait d'aller jouer au bowling, ou de chanter Aya Nakamura sous la douche.
Bonne de mes copines, à mes copines, bonne de mes copines.
Ah non, ah. Mais évidemment, ça ne suffit pas à définir un meurtrier en série. Selon le FBI, est considéré comme un serial killer tout individu qui tue au moins deux personnes dans des événements séparés, quel que soit le motif du meurtre. Selon cette définition assez large, le nombre de serial killers a explosé entre le début et la fin du XXe siècle. Reste qu'aujourd'hui, il n'existe aucune statistique sur les serial killers d'animaux, comme ma mère et comme moi. Alors je dédie ce magnéto à la mémoire des fourmis, des grillons et surtout du gentil poisson rouge que j'ai assassiné lâchement alors qu'il ne demandait qu'à vivre.
Alors avec moi aujourd'hui pour parler des serial killers, elle est comédienne et créatrice du podcast « À bientôt de te revoir ». Elle a longtemps tué des gens en série, avant de se rappeler que c'était interdit par la loi. Hein ? Bienvenue Sophie-Marie Larouille.
Ok.
Elle est journaliste, elle est passée par le Huffington Post, BFM Paris et plus récemment la station Place d'Italie pour prendre la ligne 5 avant la 6. C'est ça, hein ? Voici Rania Pedrada.
Bonjour.
Et enfin, pour évoquer ce sujet, un expert, une encyclopédie du meurtre pluriel. Il est journaliste, ex-spécialiste des affaires criminelles du Parisien, Jean-Marc Ducos. Alors une petite question pour commencer, c'est qui votre serial killer préféré? Et je me tourne vers vous, Jean-Marc Ducos.
Il y en a plusieurs en fait, mais celui qui m'a le plus impressionné, c'est parce qu'il était journaliste et qui s'appelait Vlado Tanevski. Il était macédonien et il racontait ses propres meurtres, ses propres turpitudes, mais avec tellement de précision qu'un jour ou l'autre, la police macédonienne s'est posée des questions autour de lui et il a fini par tomber fin juin 2008. Mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas combien de personnes il a pu exécuter, puisqu'il a sans doute eu une carrière criminelle d'au moins 30 ans. Donc l'enquête macédonienne s'est arrêtée, allée aux 4-5 dernières années autour de sa dernière vie. Mais on pense qu'il a au moins tué une douzaine, voire peut-être une quinzaine de personnes.
D'accord, donc c'est un journaliste qui était là et qui disait: ah bah qu'est-ce que je vais faire comme article? Ah bah tiens, si je tuais quelqu'un pour pouvoir écrire un article sur le fait que je l'ai tué.
C'est dur la pige. Hein.
Ouais.
Oui, surtout qu'il travaillait pour 5 journaux différents. Il a même été primé pour ses reportages. Il a même eu un prix national et un autre prix international.
Bah, tu m'étonnes.
Et c'est pour ça que vous avez arrêté le journalisme, c'est pour pouvoir continuer à être serial killer sans pression.
C'est ce que disent certains de mes anciens confrères, oui.
Alors, Rania Berada, votre serial killer préféré?
Moi, c'est un serial killer bien français. Il s'appelait Marcel Barbeau. Qu'on connaît sous son autre nom de scène, si j'ose dire, qui est le tueur de l'ombre et qui a semé la terreur à Nogent-sur-Marne entre 69 et 76, me semble-t-il, pendant 7 ans. Et alors, ça a déjà donné lieu à un épisode préféré de la meilleure émission du PAF qui a jamais existé, à savoir Fait entrer l'accusé, oui. Dont nous avait gratifié d'un excellent générique de début, d'ailleurs. Merci pour le clin d'œil.
Je vous en prie.
Et puis, aussi, durant cette enquête, il y avait tous les éléments de l'enquête parfaite, c'est-à-dire qu'il y avait un inspecteur, Monsieur Neveu, qui, à force d'acharnement, a réussi à trouver ce mec qui s'aimait la terreur à Nogent-sur-Marne. Et puis, il y a plein de petits trucs très rigolos, c'est-à-dire que, en fait, comme il tuait que des brunes, toutes les meufs qui étaient brunes à Nogent-sur-Marne se sont teintes en blonde, et puis plein de petites péripéties de cet acabit qui sont vraiment très croustillantes. Donc moi, c'est mon favorite serial killer ever.
Mais il y a du gros niveau là, Sophie Marie-Laroui, votre...
Bah non, mais c'est ultra croustillant là, je sais pas si...
Comme les céréales.
Exactement, tu vois, quelque part t'avais raison. Alors moi, ça a été longtemps Francis Hall,
oui.
Parce que c'est un ami de la famille. Et puis c'est vrai que lorsque l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès a éclaté, concomitamment j'ai rêvé de lui et il était dans une Twingo rose et il me faisait chut et il me faisait le signe qu'il allait me trancher la gorge. Donc c'est vrai qu'après, à partir de là, j'ai une petite obsession pour XDL.
Moi j'en ai un préféré, c'est Jeffrey Dahmer, parce que moi ce qui me fascine un peu, c'est la créativité dans le mode opératoire. Et lui, il a tué 17 jeunes hommes dans les années 70 et 80 et il faisait un truc quand même assez intéressant. Il perçait un trou dans le crâne de ses victimes avant qu'elles soient mortes, hein, et il mettait de l'acide dedans. Et ensuite, il les étranglait. Mais il est allé en prison pour toute sa vie. Et là, il s'est fait battre à mort par un autre détenu. Voilà.
Donc, il est mort ?
Donc, il est mort. Il est mort. Voilà. C'est bien comme histoire. Hein. Vous avez apprécié
cette histoire.
Le coup de la perceuse, c'est aussi très lié au grand banditisme.
Oui. Bon, pour avoir des détails là-dessus,
bah, y a,
J'adore, on va plonger.
Les punitions dans le grand banditisme, c'était d'utiliser la perceuse avec une mèche à bois et on vous attaquait... le genou, vous percez le ménisque avec, donc autant vous dire que ça fait du bien. Et c'était une grande habitude du milieu, de, notamment marseillais, du milieu parisien, quand il s'agissait notamment de récupérer des dettes.
Mais c'est très sympa, ça, on apprend plein de trucs, plein de techniques pour récupérer son argent. C'est super. Moi, j'aimerais vous montrer une photo maintenant. C'est cette photo-là. Et à votre avis, qui c'est ?
Soit c'est ton oncle.
C'est pas gentil.
Bah non, mais parce qu'il a une tête random, tu vois, il pourrait être... C'est un monsieur tout le monde, donc soit c'est un monsieur tout le monde.
En connaissant un peu ce que tu fais par ailleurs, je crois que ça doit être le premier mec qui a parlé d'un truc qui s'est fait.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, pour dire clair pour les auditeurs, c'est un monsieur effectivement qui a une tête effectivement de monsieur tout le monde, il a le visage qui brille un petit peu, il est un petit peu chauve, je pense qu'il se fait replanter un petit peu de cheveux ici. Et c'est
community
Mike.
Manager. C'est le community manager de Brain Magazine.
Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. C'est un monsieur qui s'appelle Mike Amott, et c'est le monsieur qui compte les serial killers. C'est la principale personne au monde qui compte les serial killers, qui fait genre, oui, là, il y en a un, là, il y en a un. Et donc, il fait des statistiques. Et c'est grâce à lui qu'on peut avoir des statistiques sur les serial killers. Et donc, je vais vous faire peut-être un petit quiz, parce qu'en fonction de ces statistiques, on peut avoir un certain nombre d'informations sur les serial killers. Petite devinette, déjà, c'est quoi la méthode la plus utilisée pour tuer, pour les serial killers?
Peut-être l'étranglement,
l'étranglement.
Quelque chose comme ça, ouais.
L'étranglement est dans le top 3.
L'étranglement.
Non, c'est l'étranglement, c'est le deuxième. Le premier, c'est assez banalement le revolver. Et troisième sur le podium, le poignard, hein, qui marche toujours
classique,
assez bien. Voilà, exactement. Alors, comme on est aux États-Unis, il y a aussi des statistiques ethniques sur les serial killers. On a dans la tête quand même que tous les serial killers sont blancs. Bon, j'ai un
blanc
peu
caucasien, non, c'est une vision très cinématographique du serial killer.
Ouais. 52% hein, sont effectivement blancs, mais en fait, ils sont de moins en moins blancs, c'est-à-dire que dans les dernières années, là, c'est plutôt du 31%. Et dernière petite question, dernier quiz, est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes qui sont tués, à votre avis?
Bah, des femmes.
Oh oui, ça va être les gonzesses.
Alors, des femmes, oui, bah, parce qu'il y a beaucoup de tueurs de prostituées.
Non, c'est à peu près moitié-moitié.
Moitié-moitié.
49% d'hommes, 51%
mais aux États-Unis,
de femmes.
Aux États-Unis, on est sur beaucoup de tueurs de prostituées qui sont obsédés par la purification. Mais ça tient à la culture protestante. Ces femmes de mauvaise vie qu'il faut éliminer du paysage. Mais ça, c'est...
Ouais. Voilà.
Est-ce que quand...
Pardon.
Est-ce que quand on tue des gens, est-ce qu'on tue d'abord des gens qui nous sont proches,
non,
puis d'autres ou pas?
Il y a un peu de tout. On va prendre l'exemple par exemple de Charles Sobhraj, hein, un tueur français un peu oublié, qu'on appelle le serpent, qui a surtout essaimé en Asie, au Vietnam, au Laos, en Inde, où lui ciblait essentiellement des touristes, pas forcément des gens très très proches. Michel Fourniret, bon, que tout le monde a en mémoire, lui, bah, il cherchait des jeunes filles pures et vierges. Non, il ne ciblait pas dans son entourage proche. C'est trop à risque.
Okay. Alors, j'ai une question supplémentaire pour vous. C'est peut-être bête, mais est-ce que ça existe, les tueurs en série qui regrettent et qui disent « Bah non, en fait, maintenant, je vais arrêter, j'ai assez tué. »
Ouais, tu changes de série. Moi, j'ai arrêté Game of Thrones, j'ai changé. je me fatigue, les dragons.
Alors, il peut y avoir des pauses. D'après tous les spécialistes que j'ai pu rencontrer, qu'ils soient à la PJ ou à la gendarmerie, un tueur en série, quand il commence, il ne s'arrête jamais. Il peut effectuer des pauses, alors ou parce que il s'est stabilisé dans sa vie, il s'est marié. C'est le cas notamment de Ulrich Münstermann. Quand il est marié, il y a une pause dans sa vie.
Vous avez dit Mathieu Altermann, c'est bien ce qu'on a entendu. Hein.
Non, Ulrich Münstermann.
Ah pardon.
Auteur d'un crime longtemps non élucidé dans Lyon.
Donc des pauses, oui, pour se reposer, quoi.
Voilà, parce qu'ils sont stabilisés, puis à un moment donné, il suffit que la femme avec laquelle ils étaient les quitte, parce que souvent la femme est en cause. Hein, voilà,
c'est souvent de leur faute.
C'est souvent un motif qui est invoqué. La femme est à l'origine de la perversion du tueur
et de l'homme en général.
Et donc il recommence.
Il y a quand même ce truc un peu spécial dans les serial killers, c'est que les statistiques le prouvent dans leur mobile, c'est que ils tuent parce que ça leur fait plaisir.
Oui, le véritable tueur en série.
La joie, quoi, la joie de tuer.
Il a.
C'est quand même con. Parce que si ça t'emmerde, pourquoi tu le fais? Sinon, tu peux avoir une vie normale. Hein, tu t'emmerderas aussi.
La bonne définition du tueur en série, c'est celui qui jouit de sa propre indifférence à la souffrance des autres. Voilà. Et son plaisir, c'est de s'affranchir de toutes les émotions qui font en fait que nous sommes, nous, des humains. Voilà. Ce sont des gens hors sol qui n'ont aucune émotion. Par exemple, on sait que Michel Fourniret est quelqu'un qui contemple la mort de ses victimes. Voilà. Il est totalement désincarné, dénué de toute émotion face à ses victimes.
Vous êtes vraiment en train de décrire notre gouvernement, donc c'est marrant.
C'est rien qu'il est en gouvernement.
Je ne fais pas de politique, loin de là.
Oh, moi non plus, mais je sais reconnaître une bonne analogie.
Alors, il y a certains tueurs en série qui sont aujourd'hui des icônes. On ne compte plus le nombre d'émissions sur les criminels célèbres. Une émission télé s'est donc donnée pour mission de repérer les serial killers de demain. On écoute un extrait.
Bonjour et bienvenue dans La Recherche du Nouveau Nordal. La semaine dernière, on a vécu une soirée encore exceptionnelle. Daniel a marqué les esprits avec son triple meurtre xénophobe. Aujourd'hui, c'est Nino qui ouvre le bal et se présente devant le jury. C'est parti.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Nino et j'ai 6 ans.
Et qu'est-ce que tu aimes dans la vie, Nino?
Rien.
Ah bon?
Enfin si, j'aime bien Matt Pokora.
Effectivement, rien du tout donc. Et tu viens d'où, Nino?
J'habite à Pontigny, dans Lyon.
Une jolie ville qui est aussi celle d'Émile Louis. Tu as le trac, Nino?
Non.
Bah oui, je suis bête, tu ne ressens pas les émotions. Dis-moi, tes parents sont là avec toi?
En fait, ils n'ont pas pu venir parce qu'ils sont enterrés dans le jardin à mamie avec le facteur et le monsieur très grand qui sent l'alcool.
Jean Lassalle. Juste avant les Européennes, c'est pas très gentil, ça.
Désolé.
J'espère que tu as pensé à couler une dalle en béton.
Non.
La prochaine fois, tu demanderas conseil à notre cher juré Xavier Dupont de Ligonnès. N'est-ce pas, Xavier?
Oui, déjà, voyons ce qu'il a dans le ventre, ce petit. Enfin, façon de parler.
Oui, allons-y. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer?
C'est un numéro spécial avec Biscuit, mon lapin.
Ah, quel bonheur, Nino, quel bonheur! T'as un petit côté Charles Manson, Jack l'Éventreur, c'est magnifique!
Ah ouais, putain, bravo, Nino. Ça m'a donné envie de recommencer à tuer des animaux. Pour moi, c'est un énorme oui.
Carton plein pour Nino, bravo, Nino. Après la pub, nous découvrirons un nouveau candidat. Il s'appelle Thomas Croisière, mais ses proches le surnomment le clown tueur de l'Ouest parisien. Ça promet.
Alors Nino, il tue des lapins, moi je tuais des poissons rouges. Est-ce que autour de la table, il y a quelqu'un qui tuait des animaux également dans son enfance? Sophie-Marie Larouille, je vois que vous acquiescez. Quel type d'animaux?
C'est très dur pour moi d'en reparler. Je passais des coccinelles au taille-crayon électrique.
Ah, quelle horreur. Rania Berada, non?
Ah non, je ne tuais pas d'animaux, non.
Mais voilà, des gens vertueux depuis leur enfance. Non,
même pas les fourmis.
Même pas les fourmis. Thomas Croisière non plus?
Non, mais je vous aurai un jour.
Alors, une des choses qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les serial killers nous fascinent autant. Et j'ai envie de poser la question directement, hein, en commençant par vous, Rania Berada. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on est à ce point fasciné par les serial killers?
Bah, déjà, je pense que quand on voit un serial killer, on se dit « Hamdoullah, je ne suis pas comme lui ». Donc déjà, je pense que ça, c'est quelque chose qui rassure.
Bon, je dis « Oulala, je ne suis pas comme lui ».
Qui rassure d'emblée. Puis je pense qu'il nous donne à voir en négatif tout ce parcours qu'on n'a pas nous fait, à savoir le fait qu'on ait réussi à domestiquer un certain nombre de pulsions que n'ont pas réussi à domestiquer. Enfin, ça rassure sur sa propre condition, sa propre humanité, je crois.
Sophie-Marie Larouille.
Moi, je crois qu'il y a qu'un pas entre les 15 minutes de gloire et devenir fou. Et du coup, il y a cette dimension de péter un câble, comme quand on, je sais pas, acheter une robe de rupture, par exemple, quand on se fait plaquer, on achète un habit de rupture, un truc trop cher qu'on n'est pas censé acheter parce qu'on n'en a pas besoin. Mais voilà, c'est un acte un peu fou. Bon, bah, ça, c'est le petit moule de péter un câble, et le gros moule de péter un câble, bon bah voilà, c'est acheter de la show à Jardiland pour enterrer toute la famille, quoi.
D'accord, oui, donc acheter une robe, c'est un petit peu un truc de serial killer, en fait, en puissance.
C'est le début, ouais.
C'est le début,
c'est,
ouais.
C'est une prémisse.
Jean-Marc Ducos.
Bah moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'en fait, la fascination...
Et vous y connaissez.
Ouais, mieux que moi.
La fascination qu'ont les gens, notamment pour les tueurs en série, elle se traduit par, effectivement, nombre de séries télévision, de reportages. En fait, chaque tueur en série nous renvoie, en fait, aussi l'image du mal, de l'humanité négative. Voilà. Et on s'identifie aussi, on a tous une part d'inhumanité en nous, qui nous fait nous identifier à un tueur en série. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui adhèrent et qui sont totalement fascinés par ce milieu. Il y a même des fan clubs, hein. Faut pas oublier que moi, je me souviens quand Patrice Allègre était en détention à Lannemezan dans le sud-ouest, il y avait des gens qui lui envoyaient des lettres de Suisse, qui venaient le voir, d'autres qui lui envoyaient de l'argent. Il y a des gens qui sont totalement accro.
Et si je peux me permettre, ça a même un nom, en fait, cette pathologie, un nom un peu savant, s'appelle l'hybristophilie. C'est le fait pour des gens d'être attirés sexuellement par d'autres individus qui ont commis des crimes odieux, dont des serial killers.
Mais il y a la fille qui s'est mariée avec Charles Manson aussi.
Mais il y a un célèbre tueur en série français qui ont eu des liaisons avec leur psychiatre, leur psychologue et même une commandante de police qui était chargée de l'enquête.
Et puis, mais ça peut aller jusqu'à... Enfin, rapidement, cette fascination, elle peut être pathologique, comme on le disait. Puis aussi, il y a des zones d'Internet très cachées où, en fait, il y a des marchés. Ce sont en fait des sites internet où on peut acheter des poèmes qui ont été écrits par des serial killers ou des objets qu'ils ont faits, comme par exemple des croûtes qu'avait peintes un John, je sais pas comment il s'appelle, Wayne Gacy, qui était un fameux clown qui avait tué une trentaine d'adolescents dans les années 70. Et ben ça peut s'acheter des dizaines de milliers de dollars en fait sur internet.
Jean-Marc Ducos,
je vais vous donner un simple exemple. Quand la maison de Michel Fourniret a été fouillée par la police belge à Sainte-Custine, elle a été laissée en gros en friche, et il restait dans cette maison dont les planchers avaient été défoncés, l'âtre de la cheminée, la cuisine, tout ça avait été passé au marteau piqueur par la police belge, mais il restait des objets. Et il faut savoir qu'il y avait des gens qui venaient discrètement le week-end de France, du Luxembourg, d'Allemagne, pour venir chercher, dans cette maison qui était ouverte à tout vent, qui n'était pas surveillée, eh bien, des livres, des photos, des jeux, des cartes, des meubles ayant appartenu à la famille Fourniret lorsqu'ils habitaient à Sainte-Custine.
Et tu vois cette commode, elle était à Fourniret.
Comment vous expliquez qu'ils aient galéré à vendre la maison de Ligonnès? Parce qu'ils l'ont mise en vente deux fois. Elle a été vendue deux fois depuis les faits. Et je pensais aussi que ça partirait beaucoup plus vite et beaucoup plus cher, comme un peu la maison de Johnny Hallyday, quoi, dans un autre genre de pop culture.
Il faut avoir du courage pour s'installer dans une maison où cinq personnes ont été exécutées à leur entrée et coulées dans de la chaux vive sous la terrasse.
Voilà, c'est bien de rappeler quand même.
Non, mais c'est ça le truc. Ah, n'allez pas voir.
C'est comme ça que démarrent les bons films. Cimetière indien, un hôtel.
C'est ça. Question quand même. On est fasciné donc par les serial killers. Et là, vous avez donné plein d'exemples qui le montrent bien. C'est pas un peu immoral, ça, quand même, non?
D'être fasciné par les serial... Je sais pas. Ouais.
Bah, l'immoralité, elle est en nous, en chacun de nous. Hein. Ouais. Comme on a une part d'inhumanité, encore une fois, l'immoralité, elle est. Elle fait partie de notre subconscient qui nous fascine. Mmh. Voilà, ce n'est qu'un miroir.
Peut-être le fait d'écrire autant sur eux, de faire des séries, d'écrire des livres sur les serial killers, est-ce que c'est pas leur donner la publicité dont ils rêvent dans une certaine mesure?
Ah oui, mais ça, c'est une question, c'est la question qui est au centre de tous ces débats. C'est finalement quand il y a meurtre en série, ce qui est le but qui est escompté derrière tout ça, c'est non seulement la jouissance qu'on tire de l'acte en lui-même, mais aussi la starification qui est au bout du chemin. C'est-à-dire que eux, quand ils sont en prison et quand les médias commencent à s'intéresser à leur cas, qu'ils font la une des journaux, d'une certaine façon aussi, ça prouve qu'ils ont réussi leur coup, quoi. Donc oui, est-ce que on doit leur tresser des lauriers ou pas? Ça, c'est une véritable question éthique qui se pose, oui.
Bah, en fait, en effet, ils sont portés au nu dans les au cinéma, mais en même temps, c'est normal. On préfère regarder Seven que Japlou. Enfin, c'est la moindre des choses. C'est plus excitant, c'est plus marrant. C'est il y a plus d'actes dans le drame que dans Japlou, dans Seven.
Jean-Marc Ducot ?
C'est le narcissisme du tueur. Ouais. Voilà. Le tueur aime se voir se glorifier. On sait par exemple que Michel Fourniret, s'il a commencé un petit peu à refaire parler de lui récemment, c'est parce qu'il se sentait comme une concurrence chez un autre tueur qui est apparu depuis quelques temps, Nordal Le Landais. Donc il s'est dit, il faut que je revienne un petit peu sur le devant de la scène. Voilà, donc il a lâché quelques bribes dont on ne sait pas exactement encore si
battle
c'est vrai.
Battle de meurtre, quoi. Ouais.
Voilà. Donc, il y a une sorte de concurrence non avouable et non avouée entre tueurs en série. C'est à celui qui va gonfler les pectoraux un petit peu plus que les autres.
Et pour rester sur cette question de la starification des tueurs en série, il y a un documentaire de 4 épisodes qui passe sur Netflix en ce moment, qui est dédié à Ted Bundy, qui est peut-être le premier tueur en série des années 70, avec la définition des agents du FBI. C'était d'ailleurs à son procès que le mot tueur en série a été lâché pour la première fois. Et lui, il a carrément ramené un journaliste jusqu'à dans la prison fédérale de Floride où il était incarcéré, pour lui raconter en fait des choses qu'il n'avait pas dit lors de son procès, et ça a donné lieu à entre 80 et 100 heures de conversation dont ces journalistes s'est servi avec le réalisateur de Netflix pour faire un documentaire de 4 épisodes. Donc ça peut aller très 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 loin, quoi.
Mais est-ce qu'on devrait pas faire comme avec certains djihadistes, c'est-à-dire on donne pas leur nom, quoi?
C'est la question qui se pose, oui.
C'est un choix éthique et judiciaire. Est-ce qu'on doit effectivement faire de la publicité? Mais bon, il y a publicité des débats, la cour d'assises est publique, donc voilà. Doit-on taire le nom des tueurs en série? C'est une question à poser à
Sophie Marie Laroui.
Est-ce que vous pensez pas que ça n'arrange personne qu'il y ait pas de publicité autour des tueurs en série? Parce que ça fait, ça anime, quoi, et puis ça garde le peuple dans une sorte de voilà, même si vous avez une petite vie, au moins vous êtes pas vous mettez pas en danger, vous mettez pas en danger les autres. Enfin, je sais pas,
fonction sociale, quoi.
Ouais, ça met le sucre glace sur le sur le gâteau yaourt de la société.
Alors Hitchcock était passionné de cinéma, Martin Fourcade passionné de ski de fond, mais chez Deezer, on est surtout passionné d'argent. Alors voici une page de pub.
Est-ce qu'il est jeune?
Oui.
Est-ce qu'il a des idées de vieux?
Oui.
J'ai trouvé, c'est François-Xavier Bellamy.
Et non, perdu, c'était Jordan Bardella du Rassemblement National.
Découvre Qui est-ce, édition spéciale européenne. Amuse-toi à reconnaître et à connaître les candidats aux élections européennes.
Est-ce qu'il a du charisme?
Non.
C'est Benoît Hamon?
Oui.
Oh, trop facile.
Do you speak English? Yes, I do. Pierrefitte English. You wanting to learn the language of Shakespeare? No problem. Come to Pierrefitte Institute and speak very, very good English. We hope to look to you very quick. Pierrefitte Institute, the best English school after the one in Viltaneuse. Existe también la versión con español. No hesitades y venimos a la inscripción mucho rápidamente.
Marre de toujours offrir le même t-shirt anarchie à vos amis casseurs? Découvrez la Smart Blocks, le coffret cadeau spécial Black Blocks avec le kit du parfait petit émeutier. Ce mois-ci, un sweat à capuche, du collier, un masque de ski, un pavé de 3 kg, des pansements en zaplast et l'adresse personnelle de Benjamin Griveaux.
Sophie-Marie Laroui, il y a un produit qui a attiré votre attention dans cette page de pub?
Tout à fait, Benoît Hamon, qui cherche 600 000 euros pour sa campagne en ce moment. Donc j'ai retenu ça, voilà, au hasard.
Alors pour revenir au sujet des serial killers, il y a une autre question qui vient à l'esprit quand on lit un peu sur le sujet, c'est dans quelle mesure est-ce que leur époque n'impacte pas la façon dont ils procèdent pour tuer, même le fait qu'ils existent. Et en particulier des gens qui pensent que la société capitaliste a entraîné plus de serial killers. Est-ce que c'est des affreux gauchistes, les gens qui disent ça, ou est-ce qu'ils ont raison, Jean-Marc Ducot?
Toutes les sociétés, qu'elles soient capitalistes ou communistes, ont généré des tueurs en série. Aujourd'hui, on est en train de découvrir, en fait, notamment en Russie, et notamment durant la période soviétique, que ce pays était officiellement indemne de tout tueur en série, de tout crime, alors qu'en fait, ce pays était parcouru par des tueurs itinérants avec des taux de victimes qui dépassent les 100. Voilà. Et en Chine, on a actuellement exactement le même phénomène. On a des tueurs en Chine qui sont à 105, 110 victimes.
C'est quoi le record, juste pour...
Disons, allez,
à la mouche, hein.
on va la jouer franco-française. On va prendre Gilles de Rais parce qu'on est à peu près sûr qu'il a fait à peu près 140 victimes. Après, nous avons...
Je crois que les Mexicains sont pas mal aussi.
Oui,
tueurs en série mexicains.
Mais bon, là, les statistiques font un peu défaut. En revanche, l'Allemagne, qui est toujours un pays très organisé, puisque c'est un pays où il y a énormément eu de tueurs en série, en passant entre Volker Eckert et Ulrich Münstermann, on a cet infirmier, cet ange de la mort qui s'appelle Nils Hugel. On en est actuellement à 106 victimes. Il a battu d'une victime un autre infirmier, un autre ange de la mort, Stefan Letter, qui en était qu'à 105.
Et il était de Francfort ou pas, ce serial killer? Parce que ce serait le 106 de Francfort. Voilà, je voulais alléger ce type.
Il n'était pas sujet.
Il y a un lien entre capitalisme et
serial killer. Justement, on a tendance à penser que les serial killers seraient nés en même temps que l'expression est née dans les années 70. On se rend compte, pour rester... qu'en France, qu'au 19e siècle, il y avait au moins deux exemples de serial killers français qui sont restés dans la postérité, notamment la plus grande serial killeuse française de tous les temps, à savoir Hélène Gégado, qu'on appelle la Gégado, qui aurait tué une soixantaine de personnes. Et Joseph Vacher aussi, qui dans le 19e siècle aurait tué au moins une trentaine de personnes. Donc on voit bien que c'est pas quelque chose qui est né dans les années 70, qui est bien bien antérieur.
Oui. Ouais, alors on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure quand même, c'est vous qui avez évoqué ça, Rania, je pense, c'est qu'on a peut-être un peu besoin des serial killers comme une sorte de négatif, de truc vraiment à ne pas suivre pour se rassurer sur ce qu'on est nous-mêmes.
Mais j'ai l'impression aussi que les serial killers sont un peu les monstres contemporains, où ils ont succédé, je sais pas moi, aux loups-garous, aux vampires, puisqu'ils permettent de faire communauté, puisque... La notion de monstre, c'est justement de dire, voilà, nous, on n'est pas ça, donc on est autre chose, donc on peut être dans la communauté des hommes et des femmes. Je pense que c'est ça la fonction aussi du serial killer. C'est permettre à la société, paradoxalement, de trouver des ponts, en fait, entre ces différentes humanités, quoi.
Donc merci Ted Bundy, c'est ça que... Est-ce que vous êtes d'accord avec cette fonction sociale du serial killer?
Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais Rania a parfaitement raison en disant que le tueur en série, il est fondamentalement différent de l'humain, parce qu'il, lui, s'est totalement désolidarisé, il n'a aucune émotion, il n'a aucune empathie, aucun remords, et il ne faut jamais rien attendre d'eux. Voilà. C'est pour ça qu'on a tellement de difficultés à faire avouer certains tueurs en série. C'est parce que, une fois qu'ils ont été pris pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meurtres, c'était le cas pour Émile Louis, c'était le cas pour notamment Michel Fourniret, bon, bah, aller au-delà est extrêmement difficile. Voilà. C'est des gens qui ont une défense instinctive face aux enquêteurs. Ils résistent même parfois à toutes les nouvelles techniques d'interrogatoire. Alors, techniques d'interrogatoire soft, hein. Il n'y a pas de torture, sauf des accompagnements psychologiques qui font qu'on peut conduire un tueur en série.
Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a des tortures en garde à vue, mais il y a quand même des moments de l'histoire de la criminalité en France où il y a eu des gardes à vue très musclés qui ont quand même fait qu'il y ait des gens qui sont passés aux aveux, et ça a quand même abouti sur des erreurs judiciaires, des gens qui sont retrouvés pendant 15 ans en prison. Donc il n'y a pas eu de torture, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des gardes à vue très musclés dans l'histoire des gardes à vue en France.
Écoutez du Eddy de Préto, c'est inhumain. C'est inhumain.
Question statistique, est-ce que vous pensez qu'il y a plus ou moins de serial killers qu'avant, aujourd'hui? Jean-Marc Ducot,
tout est un problème de ouais. Recensement. Aujourd'hui, on a une police organisée, structurée, qui sait faire des statistiques, qui sait prendre en compte des phénomènes sériels sur un ensemble du territoire. Il y a des services spécialisés comme l'OCRVP, l'Office central de la répression de la violence aux personnes, qui est là pour aider les enquêteurs à voir si un crime n'est pas en lien avec un autre. Ce sont des outils statistiques qui n'existaient pas il y a encore 20 ans.
Le FNAEG aussi, qui a beaucoup changé.
Oui,
les
FNAEG a effectivement permis de faire mouliner les ADN.
Juste pour les auditeurs.
C'est le fichier national des empreintes génétiques.
D'accord.
Voilà. Le mot tueur en série, en fait, il est apparu pour la première fois en 70 chez un enquêteur du FBI, et il est apparu dans la presse pour la première fois en 1981. Dans le New York Times, à propos d'une série de meurtres d'enfants à Atlanta. Mais pendant des années, notamment en France, on niait totalement l'existence ou la possibilité de l'existence de tueurs en série. C'était soi-disant un phénomène typiquement américain, parce qu'ils avaient encore un petit peu d'avance sur nous.
Alors, en tout cas, selon le monsieur qui perd un peu ses cheveux et qui brille, que j'ai montré tout à l'heure, hein, celui qui fait des statistiques sur les serial killers, monsieur Adkoff, entre les années 80 et aujourd'hui, le nombre de serial killers était divisé par 7 selon la définition du FBI. Et il explique ça, lui, par le fait que les lois sur la libération sous caution se sont durcies et que donc, en fait, on relâche moins de gens qui sont susceptibles de faire plus de meurtres ensuite. Et il y a moins de meurtres dans l'ensemble aussi, dans une certaine. Le crime s'écroule. Et voilà. En tout cas, voilà, quand même. J'aurais plutôt tendance à dire il y en a de plus en plus. Il y en a sacrément de moins en moins, en tout cas, selon ce monsieur.
Puis la montée de la télé-réalité qui permet quand même de recycler beaucoup de psychopathes. Entre les ch'tis, les Marseillais, les anges, sont des gens qui, grâce à la télévision, ne sont pas devenus des serial killers.
Mais c'est tout à fait vrai, ça.
C'est vrai que le nombre d'homicides a tendance à baisser. Bon, au début des années 90, on était aux alentours de 1200, 1300 homicides en France. Et actuellement, on en est aux alentours de 800 homicides en France.
Oui. Voilà. Ce type d'homicide
même, non, homicide en général.
Mais ça ne vous rend pas triste quand même que
même s'il y a une augmentation très forte entre 2017 et 2018.
Ailleurs, à moins de pas faire entrer l'accusé, ça. D'ailleurs, je lance un appel. Je me permets de lancer un appel à France 2 pour qu'ils nous fassent plus, qu'ils produisent plus d'émissions, puisque ça va beaucoup nous manquer si ça s'arrête.
France 2,
voilà,
produit
France 2,
plus
si
d'émissions,
tu nous écoutes.
S'il te plaît. Alors, à force de voir des séries ou des films sur les serial killers américains, on en oublierait presque nos propres tueurs vedettes. Reportage.
La France, pays de cuisine, de culture, mais aussi de serial killers. Pour en parler avec nous, Jérôme André, président de l'association des tueurs du terroir. Jérôme, quelle est la particularité du serial killer made in France ?
Eh bien, pour commencer, il a souvent un prénom qu'on qualifierait de merde, et il fait beaucoup dans le véhiculé. Michel Fourniret et sa camionnette, l'autostop pour Francis Holm ou Norda Lelandais, Émile Louis et son car scolaire, on pourrait parler de routard du crime.
Vous avez lancé le label AOC Tueur du Terroir et vous vous battez pour faire valoir les droits des tueurs en série français. Pourquoi ?
Alors déjà parce qu'il y a un savoir-faire typiquement français. Trouver un endroit où enterrer sa victime dans une forêt des Ardennes, eh bien, c'est un défi. Il faut éviter les coins à champignons, ceux où il y a déjà des corps. Si on tombe sur une joggeuse, il faut l'assassiner, ce qui complique encore l'affaire.
Ah bon, c'est obligatoire. Ah
bah oui, l'appel de la joggeuse est inévitable. C'est comme le ridicule pour Afida Turner. Au-delà de ces défis logistiques, il y a aujourd'hui le vrai problème du plagiat.
Les fameux copycats.
Se faire piquer son rituel, c'est vraiment le cauchemar de tout serial killer. Aujourd'hui, tuer quelqu'un avec une mise en scène soignée, originale, c'est presque aussi risqué que de raconter une blague à Thomas Sisley.
Vous-même, Jérôme André, il vous arrive de tuer des gens, je crois ? Par curiosité, si vous aviez un profil de victime, ce serait qui ?
Oh, il n'y en a pas en particulier. Hein. Moi, j'ai surtout tué des gens qui le méritaient. Hein. Un type qui m'avait fait une queue de poisson sur l'autoroute, un autre qui écoutait Jules dans le bus, celui qui a inventé le pantacourt, mon cousin, mon beau-frère, un type qui avait des grandes oreilles, un homme qui avait un grain de peau absolument horrible, un autre avec des traits du visage totalement asymétriques, des journalistes parfois.
Ah tiens, c'est marrant ça. Et quel type de journaliste ?
Disons plutôt des journalistes un peu grands. Vous mesurez combien, vous ?
1m94.
Parfait, ça.
Eh bien, merci, Jérôme André, pour toutes ces précisions.
Dites, j'ai une place dans mon jumpy, je vous ramène chez vous ?
Ah oui, avec plaisir.
Alors sachez que nous sommes sans nouvelles hein, de notre journaliste qui nous a permis d'investir son salaire dans l'achat de chaises plus confortables. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué.
Très.
Hein, c'est pas mal, hein, c'est plus moelleux qu'avant. Allez, c'est le moment de s'amuser pour terminer cette émission. Comme à son habitude, Thomas Croisière vous a concocté un petit jeu.
J'ai fait ça, moi.
C'est le moment du jeu de Thomas Croisière. C'est le moment du jeu. Non, 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 de Thomas Croisière.
On le sait, les tueurs en série ont souvent des petites manies, ou comme le dirait Francis Cabrel, des petites manies. Le principe de ce quiz est simple. Je vais vous donner le nom d'un serial killer et trois propositions de manie. À vous de me dire laquelle est vraie. Vous êtes prêts ?
Mm-hmm.
Alors, place au quiz qui tue. Surnommé le monstre des Andes, Pedro Alonso Lopez a admis avoir tué plus de 300 enfants. Quelle chose étonnante sur lui est vraie ? Réponse A, il avait le palic, qui est l'équivalent péruvien du Bafa. Réponse B, avant d'être arrêté, il a sorti un disque de chansons de Noël. Réponse C, il a été relâché de prison pour bonne conduite. À votre avis, le Bafa, la compilation de Noël ou relâché pour bonne conduite ?
J'ai envie que ça soit le Bafa, mais juste pour redire Bafa.
Moi, j'ai envie de dire la bonne conduite, non ça...
Moi aussi, la bonne conduite.
Eh bien, c'était la bonne conduite. D'ailleurs, pour vivre en paix, désormais, il a changé de nom. Il n'est plus Pedro Alonso Lopez, mais David Castello Lopez. Aux dernières nouvelles, il serait animateur d'un podcast sur Deezer. Louis Garavito, dit la bête, a reconnu les meurtres de 147 jeunes garçons. Mais comment ce serial killer faisait-il pour attirer ses victimes? Réponse A. Il imitait les aboiements d'un petit chien derrière l'arrière de sa camionnette. Réponse B. Il se déguisait en moine. Réponse C. Il leur promettait des skins exclusives sur Fortnite.
Le cri du petit chien.
Le cri du petit chien.
Eh bien non, il se déguisait en moine, il n'y a pas de gagnant. Et puis comme quoi les enfants, c'est vraiment des cons, tout le monde sait que c'est dangereux, un moine. Richard Ramirez, décidément beaucoup de serial killers viennent de là où vous venez, David. Monsieur Ramirez, donc
Amérique du Sud, pas du tout Portugal.
Au moins 14 personnes dans les années 80 à Los Angeles. Il a marqué les esprits lors de son procès car... Réponse A. Il est arrivé avec des pentagrammes dessinés sur les mains. Réponse B. Il est arrivé avec une croix gammée tatouée sur le front. Ou réponse C. Il est arrivé en pantalon désigual.
Pentagramme.
La croix gammée.
Ouais, la croix gammée.
Eh bien, c'est un deuxième point pour Jean-Marc. Le pentagramme, qui, rappelons-le, est une figure à cinq éléments, souvent liée à l'ésotérisme, qui est aussi l'anagramme de météoriser. C'est ça que j'aime dans ce podcast, c'est que l'on apprend en s'amusant. Nouvelle question. Il a fait 33 victimes aux États-Unis. John Wayne Gacy, que nous avons évoqué tout à l'heure, était le premier et le plus célèbre des clowns tueurs. Comment s'y prenait-il pour capturer ses victimes? Réponse A. Il se faisait passer pour le vrai John Wayne, en portant un nez rouge. Réponse B. Il leur faisait participer à un tour de magie dans lequel il les menottait. Ou réponse C. Il portait une casquette de marin et voulait clairement se faire passer pour moi.
Tour de magie.
Ouais, les menottes, c'est sûr.
Les menottes.
Je dirais réponse A.
Eh bien, c'était la réponse B, les menottes. On reconnaît bien là notre spécialiste Jean-Marc qui mène avec 3 points. Attention, c'est la balle de match. Ed Gein, le boucher, était l'un des plus cruels tueurs en série, mais il avait aussi une passion pour le home staging. Il aimait redonner vie à des objets. Quelle création mortelle lui doit-on? Réponse A, des bols en crâne humains. Réponse B, une ceinture de téton. Réponse C, un abat-jour recouvert de peau.
Ah ben je crois que c'est les trois.
Ah ouais?
Je crois qu'il avait tous ces trucs.
Réponse A.
Oh, je sais pas, je les laisse répondre, ils ont l'air tellement au courant que ça me fait...
Eh bien, Rania, grâce à son intuition lumineuse, marque 3 points et devient donc notre gagnante du soir, puisque toutes les réponses étaient justes, il a vraiment fait tout ça. C'était tout. Un sacré bosseur, le boucher, c'est pour ça que son deuxième surnom était le Valérie D'Amido de l'horreur, ou le Valérie D'Amido tout court. Bravo Rania.
Bravo.
Félicitations, vous gagnez un week-end pour deux à l'arrière du Kangoo de David Castello Lopez qui va vous emmener en forêt. On n'est pas bien là?
Merci Thomas, on a joué, on a ri.
Merci
super
à la production pour ce super cadeau.
Voilà, SMT c'est déjà terminé. Merci à Thomas Croisière de ne pas avoir dit trop de choses pénalement répréhensibles, hein, c'est sympa. Merci à nos invités du jour et merci à Nordal Lelandais d'avoir redonné ses lettres de noblesse au serial killing à la française. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à tuer ceux qui postent des commentaires négatifs sur mes vidéos YouTube. Allez, bisous.
Originals.